Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pie X, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc avec la grâce du bon Dieu, je vais continuer ces cours. Je m'excuse pour ce retard pour cette semaine. J'essaierai de le mettre toujours sur mon site internet Dame Marie le jeudi quand je peux. Donc nous en sommes sur le polycopier à la page 47. Nous sommes dans la partie concernant les béatitudes. Nous sommes toujours dans le grand traité de saint Thomas d'Aquin. La première partie de la seconde partie, grand traité sur les vertus, nous en sommes à la question donc 69. Alors, j'ai déjà commencé un peu à parler des béatitudes. Alors, quelle est la différence essentielle qui existe entre les béatitudes et les vertus ? Bien, voilà ce que répond saint Thomas. Il nous dit que les béatitudes se distinguent des vertus elles-mêmes et des dons. Les dons du Saint-Esprit, comme les actes, se distinguent des habitudes. Donc, si vous voulez, c'est l'action qui dépend, qui découle d'une vertu. J'ai dans mon âme une vertu définitive, une vertu ou une vertu acquise, une vertu passive, pas forcément définitive, mais au moins acquise, ou donnée directement par le bon Dieu. Et quand je pratique ces vertus, eh bien, je pratique les béatitudes. Donc, les béatitudes vont évidemment marquer, est une conséquence de l'état de grâce. C'est pour ça qu'on dit que ces béatitudes participent à ce qu'on appelle la couronne de la charité. Hein, toutes ces béatitudes, la pratique de ces vertus infuses, ces vertus morales, ces dons du Saint-Esprit et leurs conséquences. Par exemple, les béatitudes sont une conséquence des dons du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit sont une conséquence aussi des dons du Saint-Esprit. N'oubliez pas que je vous ai déjà expliqué que les dons du Saint-Esprit ne peuvent être utilisés, ne peuvent être dans une âme que dans la mesure où cette âme a la vertu de charité. Si une âme n'a pas la vertu de charité, eh bien, elle ne peut pas utiliser les dons du Saint-Esprit, tout simplement parce que si la charité a disparu, la couronne de la charité évidemment disparaît. S'il n'y a plus de couronne de charité, il n'y a plus de charité, donc il n'y a plus de don. S'il n'y a plus de don, il n'y a plus de béatitude, il n'y a plus de fruit du Saint-Esprit, il n'y a plus rien. C'est comme une baudruche qui se vide, si vous voulez. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il faut comprendre que lorsqu'on a le malheur de commettre un péché mortel, eh bien, on perd tout. Même si vous avez magasiné pendant des années, des milliers de mérites, eh bien, si vous commettez un péché mortel, on perd tous ses mérites. Non pas que le compteur soit remis à zéro, systématiquement, cela va dépendre de l'ardeur de la charité nouvelle. Après un péché mortel, si quelqu'un qui commet un gros péché mortel se confesse avec conviction, avec la grâce du bon Dieu, une grâce actuelle du bon Dieu pour l'aider à faire une bonne confession, s'il a la contrition, s'il a l'accusation, s'il a la réparation, le bon Dieu pardonne, parce que le bon Dieu est plein de miséricorde. Il n'est pas comme les hommes. Nous, on pardonne très difficilement, on n'oublie jamais. Le bon Dieu, il pardonne, et quand il pardonne, il oublie. Donc, dans bien des cas, si la confession est faite avec un grand repentir de ses péchés, une grande contrition, un grand esprit de repentir, un peu comme Sainte Marie-Madeleine qui est allée pleurer ses péchés aux pieds de notre Seigneur, eh bien, tout de suite, le bon Dieu peut rendre l'intégralité des mérites qui existaient avant dans cette âme. Et même dans certains cas, plus. Donc, c'est ça qu'il faut jamais, jamais se décourager après un péché mortel, parce que le bon Dieu, dans sa miséricorde infinie, il est mort sur la croix, c'est pas pour rien. Eh bien, le bon Dieu peut nous rendre justement tout de suite son amitié par l'absolution sacerdotale. C'est la grandeur de l'absolution. L'absolution ne rend pas simplement la vertu de charité, mais elle rend dans bien des cas un grand degré d'amour du bon Dieu, qui va dépendre évidemment de la toute-puissance du bon Dieu. Le bon Dieu n'est pas obligé, après une bonne confession, de nous rendre tout ce que nous avions auparavant. Il peut nous rendre une partie de ces choses que nous avions acquises, qui nous préparaient à la vie éternelle. Alors, voyons un petit peu les détails. Donc, dans Saint Thomas, on a la question Saint Thomas, Saint 69. Donc, la vie humaine, dit-il, a pour règle la raison et la loi éternelle, les vertus, la perfectionne à l'égard de la raison, les dons par rapport à la vie éternelle. Les béatitudes sont les actes des vertus et principalement des dons. Donc, les béatitudes sont des conséquences des vertus et conséquences des dons du Saint-Esprit. C'est pour ça que quelqu'un qui pratique l'esprit des béatitudes dans l'état de grâce est quelqu'un qui a déjà atteint un haut niveau de vie spirituelle. N'oubliez pas que il y a deux lumières constamment qui éclairent notre âme, la lumière de la raison, bien sûr, pour tous les hommes, et la lumière de la grâce sanctifiante. Et que cette lumière de la grâce sanctifiante va préparer une troisième lumière, qui serait la lumière permanente, celle-ci, à savoir la lumière de la gloire au ciel pour les élus. Donc, c'est au sommet de la page 47 sur le polycopier, voilà ce que dit saint Thomas. Comme les vertus morales sont liées entre elles dans la prudence, ainsi les dons du Saint-Esprit sont-ils liés entre eux dans la charité. On dit que ce sont les sept voiles du bateau, mais les sept voiles du bateau travaillent ensemble, ce qui fait que c'est un peu comme les sept doigts d'une main, si vous voulez, de deux mains. Eh bien, il faut absolument avoir cette union. Il y a cette union indispensable entre tous les dons de Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit ne vont pas travailler de façon indépendante. Quelqu'un qui a un don du Saint-Esprit, il les a tous. Quelqu'un qui a perdu un don du Saint-Esprit, il les a tous perdus. C'est la même chose pour les béatitudes. Quelqu'un qui pratique une béatitude, il les a toutes, parce que toutes les béatitudes sont unies comme conséquence, comme acte des vertus et des dons. Donc, celui qui a la charité a tous les dons du Saint-Esprit et qu'on ne peut en avoir aucun sans la charité. Donc, je vous rappelle qu'il y a un ordre, si vous voulez, dans toutes ces choses. Donc tout en haut, évidemment, il y a les vertus théologales, puis les dons du Saint-Esprit avec les béatitudes et les fruits du Saint-Esprit que nous verrons en question 70 de la prima secondae, la première partie et la deuxième partie. En dessous de ces dons du Saint-Esprit, donc nous avons les vertus intellectuelles, contemplatives, savoir la sagesse, l'intelligence, la science, les vertus intellectuelles actives comme l'art et la prudence, et en dessous les vertus morales. Donc, les vertus morales sont celles par lesquelles l'appétit, si vous voulez, est perfectionné pour obéir à la raison. Alors que les dons du Saint-Esprit, les béatitudes, sont donnés pour obéir à la lumière de la grâce. Donc, une lumière largement supérieure à la lumière de la raison. Rappelez-vous ce qui a déjà été expliqué plusieurs fois. Donc, la vie humaine a pour règle la raison, la loi éternelle, mais les vertus, la perfection à l'égard de la raison. Donc les vertus vont travailler avec la lumière de la raison, une lumière donc naturelle, sauf dans le cas où on a des vertus infuses directement par Dieu. Par exemple, les vertus théologales ne travaillent pas à l'égard, ne perfectionnent pas, ne perfectionnent, se perfectionnent pas à l'égard de la raison, mais les vertus théologales ne vont pouvoir travailler, surtout la vertu de charité, que sous la lumière de la grâce. Encore une fois, s'il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de charité. La partie des béatitudes qui se présente donc sous l'idée de mérite est une préparation à la béatitude parfaite ou commencée. Donc elle appartient dès lors à la vie présente. Les choses qui sont offertes comme des récompenses sont ou la béatitude parfaite, et alors elles appartiennent à la vie future, au ciel, ou un commencement de béatitude qui regarde la vie présente. Ça veut dire que les béatitudes nous donnent déjà un avant-goût du ciel. C'est en quelque sorte une âme qui est en état de grâce, une âme qui vit dans la charité, une âme qui a les fruits du Saint-Esprit, les béatitudes. On peut déjà dire que le ciel existe dans cette âme. Cela nous aide à comprendre la catastrophe d'un péché mortel. deux choses. D'une part, cela nous aide à comprendre la catastrophe d'un péché mortel, parce que le péché mortel détruit tout ça. Et en même temps, la grandeur du sacrement de pénitence. Parce que le sacrement de pénitence, justement, nous rend tous ces dons de Dieu, selon différents degrés, selon la volonté divine, parce que le pardon est un pardon complet. Parce que mon Dieu pardonne, il ne pardonne pas à moitié. Il ne va pas vous dire, bon, je vous pardonne la moitié de vos péchés. Il pardonne ou il ne pardonne pas. S'il pardonne, il pardonne tout. Et quand il pardonne tout, et en pardonnant, il oublie aussi en même temps. On a beaucoup, beaucoup de mal à comprendre la miséricorde du bon Dieu. Ça, je ne suis pas du tout d'accord avec ces gens qui, parfois des prêtres malheureusement, qui ne parlent que de la justice. C'est faux. Il faut aussi beaucoup parler de la miséricorde. Il a été reproché à Monseigneur Lefebvre de parler très souvent de la miséricorde. Mais il avait raison. Il avait raison. On convertit beaucoup plus les âmes par la miséricorde que par la justice. Rappelez-vous, c'est Saint François de Sales qui disait que on fait plus de bien avec on attire plus les mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Et qu'il vaut mieux une petite action faite avec un once de charité plutôt que de faire de grandes actions sans charité. Donc il faut, encore une fois, tout remettre sous le regard du bon Dieu. L'homme vertueux ne reçoit pas toujours ici-bas des récompenses matérielles, mais il n'est jamais privé des récompenses spirituelles. Tandis que le cœur déréglé est à lui-même son propre châtiment. Les justes sont rassasiés dans la vie présente des dons et des consolations de la grâce. Donc le drame, c'est que lorsque le bon Dieu sait qu'il ne peut pas remercier quelqu'un une fois qu'il est mort, parce qu'il sait, il sait tout, il sait par avance sa prédestination, il sait par avance si on va mourir en état de grâce ou non, et donc il sait très bien que pour telle personne qui ne pourra pas récompenser plus tard, parce que cette personne malheureusement mourra en état de péché mortel, alors le bon Dieu la récompense ici-bas, avec des choses d'ici-bas, avec des choses matérielles, avec des biens, et des plaisirs matériels. Au contraire, ce que le bon Dieu connaît et qui vont un jour venir avec lui au ciel, il le sait par avance. Et donc le bon Dieu souvent leur donne des grosses croix ici-bas, tout simplement parce que ces grosses croix ici-bas sont nécessaires pour se purifier. On ne se purifie pas sans croix. Donc ces purifications vont ouvrir les portes et nous donner un degré de gloire absolument incroyable au ciel. Donc plus on a de croix au ciel, ici-bas sur la terre, plus notre degré de gloire sera grand au ciel. On voit très bien ça chez les saints. Les saints ont des croix absolument très lourdes à porter. Donc, si vous voulez, ces dons du Saint-Esprit et les conséquences des dons du Saint-Esprit, à savoir les béatitudes, vont rendre toutes les facultés de l'âme capables de se soumettre à la motion divine. C'est en quelque sorte, ça facilite la soumission à la volonté divine. En ordonnant tout simplement cette volonté humaine à la loi éternelle du Saint-Esprit. Donc les vertus, les dons du Saint-Esprit, les béatitudes vont donner une espèce d'obéissance surnaturelle. Pourquoi? Parce que ces dons du Saint-Esprit sont toujours infus. Si les dons du Saint-Esprit sont toujours infus, les vertus, les béatitudes, pardon, et les fruits du Saint-Esprit sont aussi des choses infuses, données par Dieu. Alors, les hommes, dit saint Thomas, avaient distingué trois espèces de béatitude. Donc, on va attaquer maintenant la question 69. Donc, la première partie, la deuxième partie, question 69, sous l'article 3. Donc, c'est la page 47, le nombre des béatitudes. Vous savez que le nombre des béatitudes n'est pas le même selon les évangélistes. Donc, saint Matthieu, par exemple, compte 8 béatitudes, mais saint Luc compte 4 béatitudes dans son discours sur la montagne. Cependant, les pères de l'Église font remarquer que les 8 béatitudes dont parle saint Matthieu sont contenues dans les 4 béatitudes dont parle saint Luc. Alors, les hommes ont distingué toujours 3 espèces de béatitudes. Une béatitude ici-bas. Donc, beaucoup de gens placent leur suprême félicité dans la vie voluptueuse, donc dans la béatitude d'ici-bas. D'autres dans la vie active et d'autres dans la vie contemplative. Donc ces trois sortes de félicité, évidemment, sont très différentes. Celle de la vie voluptueuse, c'est-à-dire les gens qui cherchent à trouver leur bonheur ici-bas, vont place, vont faire de cette vie voluptueuse qu'ils recherchent un obstacle à la vie future. Donc, au contraire, ceux qui placent leur félicité dans la vie active se disposent déjà au vrai bonheur. On a le droit d'aimer les choses de la vie active à condition de ne pas offenser le bon Dieu. Au contraire, ceux qui placent leur suprême félicité dans la vie contemplative, eh bien, ceux-là vont se trouver, si vous voulez, directement, littéralement, à la porte de la béatitude elle-même au moment de son commencement. Quelqu'un qui vit en état de grâce, qui a les béatitudes, les dons du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, je vous l'ai déjà dit, il y a vraiment le ciel dans son âme. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'on ne peut pas parler de béatitude de vie active ou béatitude de vie contemplative sans évidemment se couper de la béatitude de vie voluptueuse, ici-bas. Celui qui se contente de vivre dans les plaisirs et les délices matériels, eh bien, cette personne, évidemment, sera incapable d'arriver à une béatitude dans la vie active et encore moins d'arriver dans une béatitude dans la vie contemplative. Et c'est pour ça que la première condition pour se mettre à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ consiste à arrêter d'aimer les choses de ce monde. Tant qu'on aime trop les choses de ce monde, on ne peut pas y arriver. Donc le Seigneur a condamné d'abord la félicité voluptueuse. C'est pour cela qu'il a dit « Bienheureux sont ceux qui sont les pauvres, les pauvres en esprit, on va y revenir. Bienheureux ceux qui sont doux, bienheureux ceux qui pleurent. » Et donc cela explique bien justement tous ceux qui sont coupés des choses de ce monde. Pourquoi? Parce que quand il parle de la pauvreté d'esprit, bienheureux ceux qui sont pauvres d'esprit. Quand il parle de la pauvreté d'esprit, il explique bien que cette pauvreté d'esprit exclut la richesse matérielle, exclut la richesse des biens de ce monde dans le sens des trois concupiscences. Quelqu'un qui a le cœur plein des trois concupiscences, de la pauvreté, des yeux, de l'orgueil, de la chair, bien évidemment, ne peut pas prétendre obtenir la béatitude, même la béatitude de la vie active, encore moins la béatitude de la vie contemplative. Donc pourquoi est-ce qu'il parle à la fois de la pauvreté d'esprit, de la douceur, bienheureux ceux qui sont doux, bienheureux ceux qui pleurent? Pourquoi? Parce que il parle de ces choses-là parce que cette pauvreté d'esprit concerne les richesses et les honneurs dont on se détache par la vertu d'humilité. Donc la douceur va nous faire surmonter les passions de l'irascible, renoncer au plaisir qu'elle cause. Les pleurs, bienheureux ceux qui pleurent, ont pour but de nous apprendre à résister aux jouissances des passions du concupiscible par un deuil volontaire. Au contraire, ce qui concerne la vie active, eh bien, qu'est-ce que dit notre Seigneur? La vie active consiste surtout dans ce que nous accordons au prochain, soit comme dette, soit comme bienfait. Et c'est la béatitude dont parle notre Seigneur dans le Saint-Évangile. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, bienheureux les miséricordieux. Ça, c'est la béatitude de la vie active. La vie contemplative, au contraire, la troisième béatitude, je dis qu'il y a trois béatitudes, béatitude de la vie voluptueuse, on ne peut pas l'accepter en tant que catholique, la béatitude dans la vie active, et enfin la béatitude dans la vie contemplative. Mais la vie contemplative comprend ou la béatitude finale elle-même, ou son commencement ici sur la terre. Quelqu'un qui vit en état de grâce a déjà, je vous l'ai dit, une partie du paradis dans son cœur. La vie contemplative comprend donc ou la béatitude finale elle-même ou son commencement, ce que le Seigneur a dû énoncer comme des récompenses et non comme des mérites, tout en présentant sous l'idée de mérite les actes de la vie active qui nous disposent à la vie contemplative. C'est-à-dire les actions que nous faisons ici-bas doivent être un tremplin pour nous permettre d'obtenir la récompense éternelle, la vie contemplative. C'est pour ça qu'avant chaque action importante dans notre vie, il faut se poser cette question, Saint Ignace de Loyola se posait très souvent, quid ad aeternitatem? Qu'est-ce que cette action que je veux commettre, que je veux faire maintenant, qu'est-ce qu'elle vaut par rapport à l'éternité, par rapport à la vie éternelle pour laquelle mon âme est faite? Les actes, donc, en ce qui est des vertus et des dons, qui perfectionnent l'homme en lui-même pour le préparer, la vie contemplative se ramène donc à la pureté du cœur. C'est là où on est dans la béatitude, dans la vie contemplative. D'où la sixième béatitude, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, à laquelle a pour but d'exclure les souillures des passions. Ces mêmes actes, quant aux vertus et aux dons qui perfectionnent l'homme dans sa conduite envers le prochain, se résument donc dans la paix et dans la concorde. Toutes ces béatitudes se retrouvent en elles, c'est-à-dire sont unies les unes aux autres. Il ne faut pas vouloir les séparer, ce serait une erreur. Il faut savoir par exemple que Saint Luc, qui n'énumère que quatre béatitudes, rapporte le discours que notre Seigneur adressa à la foule, qui ne connaît que la béatitude voluptueuse, temporelle et terrestre. Voilà pourquoi il ne cite que les quatre béatitudes qui repoussent le bonheur terrestre. Donc il s'adresse à des gens qui ne sont pas encore convertis complètement. Donc on donne à un nourrisson, on donne du lait, on peut donner de la viande à un nourrisson, il n'est pas capable de la digérer, de la croquer. Par contre, on lui donne du lait, parce qu'il est au début de sa vie naturelle, donc il faut lui donner des choses proportionnées à ce début. Au contraire, quand quelqu'un a monté en grandit en âge, quand on arrive à devenir non plus un bébé, mais un petit enfant, à 4, 5 ans, 3, 4 ans, donc on peut à ce moment commencer à manger d'autres nourritures solides qu'on ne peut pas manger évidemment comme nourrisson. Donc Saint Luc n'énumère ces quatre béatitudes que en tant que préparation à la béatitude, contemplative, mais comme il sait que les gens à qui il parle ne sont pas encore élevés dans la vie spirituelle, donc il leur parle surtout de la béatitude de la vie active. Bienheureux ceux qui sont pauvres, bienheureux vous qui avez faim, bienheureux vous qui pleurez, vous serez bienheureux si les hommes vous haïssent. Alors, quelles sont les récompenses donc, de ces béatitudes? Vous savez que chaque béatitude va avec une récompense. Par exemple, quand le Seigneur dit « Bienheureux les pauvres en esprit », il va rajouter « Parce que le royaume des cieux leur appartient ». Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés, etc. Donc, posons-nous la question avec saint Thomas. C'est la question, première partie de la deuxième partie, question 69, article 4. Qu'on verra explicitement un peu après. Pour le moment, je vous donne un peu une vue générale, et ensuite on rentrera dans les détails. C'est ce que je fais en général avec saint Thomas. Si je donne un peu un plan d'ensemble, bien sûr, je reviens sur chaque partie. Donc, que cherchent les hommes dans les richesses et les bonheurs, les honneurs de ce monde, pardon, sinon justement l'excellence et l'abondance, hein? Ils cherchent aussi, que cherchent les hommes méchants et cruels dans les procès et les guerres? Ils cherchent la sécurité. Que cherchent les hommes dans les convoitises, dans les plaisirs de ce monde, sinon les consolations contre les maux de la vie présente? Donc, ces béatitudes, dont parle Saint Luc, qui parle de la béatitude active, ont pour but d'empêcher l'injustice dans l'acquisition des biens temporels, la dureté des hommes qui, pour ne point partager l'infortune des malheureux, s'éloignent des œuvres de miséricorde. On va voir tout ça. Donc, la vie active, justement, va nous prédisposer à la vie contemplative. C'est pour ça que, contrairement à ce qu'on croit, Saint Thomas dit que la vie spirituelle la plus parfaite, c'est un mélange de vie active et de vie contemplative, et pas la vie contemplative pure. Il faut mélanger les deux, il faut contemplative, contemplation et action. C'est un peu dangereux d'avoir une vie purement contemplative. Même les grands anachorètes du désert d'Égypte, au début de l'histoire de l'Église, qui faisaient des pénitences épouvantables, qui vivaient dans des déserts impossibles, eh bien, ils avaient besoin de... Ils ne faisaient pas que des choses contemplatives. Ils ne se contentaient pas de prier toute la journée. Ils avaient aussi du travail manuel à faire. C'est pour ça qu'il y avait toujours un évêque au-dessus de tous ces moines. Et l'évêque demandait à ces anachorètes, à ces moines qui vivaient dans le désert, une pénitence épouvantable, et bien il leur demandait justement de faire aussi un travail manuel. Ils faisaient des nattes en général avec des feuilles de sisal, des feuilles de palmier, et qu'on revendait justement pour pouvoir nourrir les pauvres et nourrir les ermites. Donc, le mélange entre la vie active et la vie contemplative est une conséquence du fait qu'on vit ici-bas. Tant qu'on est sur la terre, on est obligé de mélanger les deux. On ne peut pas avoir une vie purement contemplative, c'est impossible. Alors, le Sauveur promet donc la vision de Dieu à ceux qui ont le cœur pur et aux pacifiques la gloire de la filiation divine ou l'union parfaite avec Dieu. Donc le royaume des cieux qui est attribué à ceux qui sont pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui sont coupés des biens, qui acceptent de se couper des biens matériels d'ici-bas, eh bien, la récompense, c'est le royaume des cieux, pour bien faire comprendre que cette béatitude renferme toutes les autres béatitudes. C'est pour ça que les quatre béatitudes expliquées dans Saint-Luc sont contenues dans les huit béatitudes expliquées par Saint-Matthieu, et que les huit béatitudes expliquées par Saint-Matthieu sont contenues également dans les quatre béatitudes obtenues, expliquées, pardon, par Saint-Luc. Alors voyons un petit peu maintenant les détails de ce que je viens de vous donner. J'ai brossé un tableau général, maintenant on va voir un petit peu les détails. Donc on est à la page 47, question 69, article 3, donc sur le nombre des béatitudes. Hein. Donc vous avez d'abord ce que je viens d'expliquer, donc je relis ces choses-là. Il faut relire, répéter les choses. On m'accuse de toujours répéter les mêmes choses. Je répète beaucoup, c'est vrai, c'est nécessaire pour l'apprentissage d'une matière. On ne peut pas comprendre les choses, on est des grands enfants tous, et moi le premier, on a besoin de répéter, répéter les mêmes choses pour que ça rentre. Et même parfois, en répétant les choses, ça rentre toujours pas. Souvent, je vois des gens, par exemple, me posent des questions après un cours de catéchisme pour adultes, alors que la réponse, je l'ai donnée dans le cours, mais ils n'ont pas entendu, ou ils n'ont pas fait attention à ce que j'avais dit. Donc les béatitudes sont énumérées et dans Saint Matthieu et dans Saint Luc de la manière la plus satisfaisante. Bon, pas qu'on a en face de nous donc une tri-béatitude. Les uns ont mis la fin de leur vie dans la béatitude voluptueuse, d'autres dans la vie active, d'autres dans la vie contemplative. La béatitude voluptueuse, donc, dit Saint Thomas, parce qu'elle est fausse, contraire à la raison, est un obstacle à la béatitude future. Donc on peut se préparer à la béatitude contemplative avec la béatitude de la vie active, mais on ne peut pas se préparer à la béatitude de la vie active ou la béatitude de la vie contemplative avec la béatitude voluptueuse, parce que la béatitude voluptueuse n'est pas une béatitude. C'est beaucoup plus grave que ça. La béatitude voluptueuse, c'est le contraire de la béatitude. Donc la béatitude de vie active, au contraire, dispose à la béatitude future. Et quant à la béatitude contemplative, elle constitue essentiellement déjà le paradis dans l'assiette, dans la tête, pardon. Si elle est parfaite, elle constitue essentiellement la béatitude future elle-même. Si elle est imparfaite, elle en est comme le commencement. Alors, c'est pour cela aussi qu'en matière de vie spirituelle, il faut faire attention à justement pouvoir méditer un petit peu sur ces choses-là, comprendre qu'il faut, de même qu'il faut, si vous voulez, dans la pratique d'une vie normale d'un catholique, mélanger l'action et la contemplation. De la même façon, dans la vie de prière, il faut mélanger la prière vocale et la prière mentale. C'est un peu un danger de n'avoir qu'une prière purement vocale tout le temps. Beaucoup de gens ne savent prier qu'avec des prières qu'ils récitent par cœur ou qu'ils lisent avec beaucoup de bonne volonté, je ne nie pas, mais ils n'utilisent qu'une prière purement vocale. Pourquoi vocale? Parce que vocale, ça vient de vox. Vox, ça veut dire la voix en français. Et donc, ils n'ont qu'une prière vocale. Donc, à ce moment-là, il y a une certaine. La prière, si vous voulez, va devenir un peu fastidieuse, parce qu'ils répètent toujours des prières un peu comme une mécanique. Au contraire, l'Église a toujours beaucoup poussé sur la prière mentale. Mens, en latin, c'est l'esprit. Mens mental, c'est une prière tout à fait supérieure à la prière vocale, bien sûr. J'ai pas l'intention d'éliminer la prière vocale. Les deux sont nécessaires, mais il faut un équilibre entre les deux. La prière mentale est plus importante que la prière vocale. Donc, le bon Dieu va donc placer tout à fait au début certaines béatitudes parce qu'elles écartent l'obstacle de la vie voluptueuse. Pourquoi la vie voluptueuse, qu'est-ce que c'est que la vie voluptueuse, pardon, c'est l'abondance des biens extérieurs, l'abondance des richesses, l'abondance des honneurs. Mais il n'y a pas que ce que nous propose la béatitude d'ici-bas, la béatitude voluptueuse, les biens extérieurs, les richesses et l'honneur. D'où la nécessité d'avoir des béatitudes qui nous font modérer l'attachement aux biens extérieurs, modérer l'attachement aux richesses et modérer l'attachement aux honneurs. On retrouve là les biens extérieurs, la richesse et les honneurs, les trois grands piliers de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que propose la franc-maçonnerie? Toujours les trois mêmes choses. La franc-maçonnerie propose L'orgueil, l'honneur, l'argent. Méfiez-vous énormément quand vous voyez dans une société qui vous propose simplement ces trois choses-là, l'orgueil, l'honneur et l'argent. Vous pouvez être sûr que vous êtes tombé sur une société mélancolique. Pardon, sur une société, pas mélancolique, mais maçonnique, excusez-moi. Alors, il ne faut donc, si vous voulez, par l'usage des vertus cardinales, des vertus morales, il ne faut absolument donc lutter contre cet attachement que nous avons aux biens extérieurs, aux richesses, aux honneurs. Donc on ne peut pas voler parce qu'on a fil à la patte. Ce fil à la patte, c'est l'attachement à ces biens d'ici-bas, soit à l'argent, soit à l'honneur, soit à l'orgueil. Pour cela que le bon Dieu nous demande justement par la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, de lutter contre cet attachement déréglé pour l'argent, l'honneur et l'orgueil. Pauvreté, par exemple, va nous permettre d'éliminer ou de mortifier en grande partie l'attachement et l'abondance des biens extérieurs. On voit donc, deuxième chose, c'est la concupiscence, je veux dire la vertu, le conseil évangélique de chasteté, d'obéissance. Donc, chasteté, justement, va nous permettre de courber la rébellion de la chair. Et l'obéissance va nous permettre de lutter contre l'orgueil. Alors voyons rapidement la première béatitude. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Par le don du Saint-Esprit, donc, qui entraîne la béatitude, l'homme va être entraîné, à cause de l'excellence de la béatitude, à mépriser totalement les biens d'ici-bas. D'où la première béatitude, bienheureux les pauvres en esprit, ce qui sera porté soit au mépris des richesses, soit au mépris des honneurs, par le moyen d'humilité. Donc, la pauvreté en esprit, justement, va nous aider à couper l'attachement déréglé que nous avons pour l'honneur et pour l'orgueil. Cette pauvreté spirituelle doit aussi se rencontrer dans la pauvreté matériel. Les deux choses sont unies. Quand il y a trop d'argent, trop de facilité matérielle, il est difficile de sanctifier. Il n'est pas impossible, mais difficile. Il y a des grands saints qui étaient très riches. Il y a eu des rois, par exemple, quand tu es canonisé par l'Église. Saint Louis était un roi. Il avait donc une certaine richesse à cause de son rang. Mais il avait l'esprit de pauvreté qui lui permettait de ne pas devenir esclave de ses richesses. Pardon. Donc, cette pauvreté d'esprit nous demande donc de ne pas être attaché aux biens de ce monde. C'est pas simplement faire attention à ne pas avoir trop d'argent ou trop de choses matérielles, mais cette pauvreté en esprit nous fait mépriser les richesses, mépriser les honneurs par la vertu de l'humilité. D'où l'importance fondamentale de l'esprit de pauvreté. S'il n'y a pas l'esprit de pauvreté dans une âme, il est pratiquement impossible pour les enfants de rester en état de grâce. Le monde moderne est comme ça. Il couvre les hommes modernes de cadeaux. Il couvre les hommes modernes de choses matérielles. C'est comme si vous mettez tellement de bois dans un feu que le feu s'éteint parce qu'il y a trop de bois. Et bien là, c'est un peu la même chose. Donc, le monde moderne va nous couvrir de choses matérielles. Du coup, il n'y a plus de place pour les choses spirituelles. Parce que l'âme est encombrée par toutes les choses matérielles. Pour ça, quand une personne se convertit, la première chose qu'il faut faire, c'est ouvrir la porte et jeter hors de l'âme les choses purement matérielles, l'attachement aux choses purement matérielles, pour donner la place à l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint, ce qu'on dit au baptême, laisser la place au Saint-Esprit, le démon, laisse la place au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va venir prendre possession de cette âme. D'où l'importance fondamentale, encore une fois, de l'esprit de pauvreté pour l'éducation des enfants. Je ne sais pas comment éduquer un enfant qui est entouré de biens matériels, qui a beaucoup trop de biens matériels. C'est un peu le drame de la civilisation moderne, surtout avec les enfants, les grands. Ceux qui souffrent le plus, certainement, de la civilisation moderne, c'est les enfants, les grands enfants, les préadolescents et les préadolescents, donc 12, 13, 14, 14, 15 ans, c'est eux qui en souffrent le plus, parce que justement, leur âme, leur esprit est encombré de choses matérielles. Ils ont des gadgets dans la poche à longueur de journée, à commencer par un téléphone portable, par des moyens de visionner tous les vidéos possibles et imaginables. Tout ça, c'est parfois 7 ou 8 ans, ou 10 ans, ou 12 ans, et c'est ridicule, parce que c'est pas leur devoir d'État de faire ces choses-là à l'âge qu'ils ont. D'où l'importance, encore une fois, d'avoir cet esprit de pauvreté. Ne laissez pas vos enfants vivre dans le luxe. Ne laissez pas vos enfants vivre dans l'excès de choses matérielles. Hein? Donc il faut les surveiller de près pour justement qu'ils ne tombent pas dans le panneau. Hein? Donc la pauvreté réelle et d'esprit est absolument nécessaire justement pour que nous puissions ouvrir nos âmes à la grâce du bon Dieu, pour l'usage de toutes les choses matérielles et en même temps si vous voulez, garder les choses matérielles, voilà ce que je voulais dire, garder les choses matérielles dont on a besoin. On ne peut pas vivre dans une grotte, le bon Dieu ne va pas vous demander de vivre comme un homme de Cro-Magnon, c'est pas ça. Mais le bon Dieu va vous demander, même dans l'afflux de biens matériels, de ne pas attacher votre cœur à ces choses matérielles. Il est évident que si on couvre les enfants de téléphones portables, d'électronique, d'ordinateurs, de télévision, tous ces trucs-là, mais comment voulez-vous que l'enfant ne soit pas attiré par toutes les choses matérielles de ce monde? Il est évident que si une âme, est encombrée de choses matérielles, il n'y a plus de place pour le bon Dieu. Hein? Pour cela qu'il dit, bienheureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux leur appartient. Donc la porte du ciel est d'abord ouverte à ceux qui se séparent par l'esprit de pauvreté des choses de ce monde. Le moine, par exemple, est quelqu'un qui va vivre avec cette pauvreté d'esprit, c'est-à-dire l'esprit de pauvreté, chasteté, l'obéissance, le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté, le vœu d'obéissance. Alors, deuxième béatitude. Donc, bienheureux les doux. Hein, bienheureux les doux. Donc cette béatitude est extrêmement, extrêmement importante, justement, parce que cette béatitude va nous permettre de contrôler nos passions. Quoi, parce que la vie voluptueuse consiste à suivre les passions. Celle de son appétit irascible et celle de son appétit concupiscible. Rappelez-vous, les 11 passions de l'âme dont j'ai déjà parlé auparavant. La vertu, donc, nous retient de suivre les passions de l'irascible en nous empêchant, selon les règles de la raison, de nous laisser déborder par elles. Donc, le don du Saint-Esprit y parvient d'une manière plus excellente et en rendant l'homme, conformément à la béatitude, à la volonté divine, tout à fait tranquille à l'égard de ses passions. La deuxième béatitude, bienheureux les doux. Et donc cette béatitude, bienheureux les doux, va donc nous permettre de nous retenir de suivre les passions de l'irascible, en nous empêchant, selon les règles de la grâce sanctifiante, de nous laisser déborder par elle. On n'est plus au niveau naturel, on est au niveau surnaturel. D'où la béatitude, bienheureux les doux. Troisième béatitude, bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Donc, la vertu qui nous retient de suivre les passions du concupiscible, cette fois-ci, en les utilisant avec mesure, on va nous aider à les utiliser avec mesure. Donc, la béatitude bienheureux les doux concerne surtout les passions, l'usage des passions dans l'irascible. Hein? L'irascible, je vous rappelle, c'est un pouvoir de notre âme qui nous aide à vaincre les obstacles que nous rencontrons dans la pratique de la volonté du bon Dieu. Au contraire, la béatitude bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, nous aide à mortifier les passions du concupiscible. Le concupiscible, c'est un pouvoir de notre âme qui nous permet d'aimer les choses d'ici-bas. Bon, il faut que tout ça soit réglé par la raison et en plaît, surnaturellement en plus, doit être réglé par le travail de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire les dons et les fruits du Saint-Esprit et les béatitudes. Donc, la vertu nous retient de suivre les passions du concupiscible en les utilisant avec mesure, mais le don, en les rejetant totalement si c'est nécessaire, qui plus est, en faisant si c'est nécessaire, qu'on accepte volontairement l'affliction, d'où la troisième béatitude, l'affliction, pardon, d'où la troisième béatitude, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui pleurent, c'est-à-dire que bienheureux ceux qui souffrent par amour pour moi, eh bien, je vais vous consoler, je vais venir vous sécher vos larmes pour vous aider, non plus à plus avoir de croix, mais pour vous aider à utiliser toutes ces croix qu'on vous envoie pour vous aider à monter plus proche de Dieu. Passe à la page 48 du polycopier. Quant à la vie active, donc, elle consiste principalement dans les services que nous rendons aux prochains, soit au titre d'une dette, soit au titre d'un bienfait spontané. On peut aider le prochain parce qu'on est tenu de l'aider pour réparer, par exemple, un vol passé, ou on peut aussi aider le prochain par pure, de façon parfaitement, aider le, pardon, j'ai perdu ma phrase, aider le prochain par charité, voilà ce que je cherchais. Donc, soit en justice, soit en charité. Donc, la vie active va donc travailler, les béatitudes qui concernent la vie active vont donc travailler avec la vertu de justice et avec la vertu de charité. Donc, par exemple, quand une béatitude s'occupe de la vie active, la vertu nous dispose donc à ne pas refuser de rendre au prochain ce que nous lui devons, ce qui ressort donc à la justice, d'où la béatitude complète. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Mais le don nous induit aussi à le faire avec plus de sentiments pour que nous accomplissions les œuvres de la justice avec un désir fervent, comme celui qui a faim et qui a soif aspire ardemment à manger et à boire. La quatrième béatitude, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice. Bienheureux ceux qui veulent voir notre Seigneur Jésus-Christ régner dans le monde. Cette béatitude, donc la quatrième, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, c'est quoi? C'est tout simplement le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ n'est rien d'autre que l'application de cette béatitude, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice. Donc on veut voir notre Seigneur Jésus-Christ régner dans la vie civile, régner dans les tribunaux, régner dans les écoles, régner dans les hôpitaux. Toutes ces choses que le monde moderne, dont le monde moderne ne veut plus rien entendre, ne veut plus rien entendre. Notre Seigneur Jésus-Christ prêche le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ vraiment présent par son royaume. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment présent dès ici-bas dans la vie sociale, du règne social, du règne dans la société. Alors qu'au contraire, le monde moderne ne veut plus rien entendre parler de tout cela, plus entendre parler de tout cela. Pour ça, pour l'Église catholique, le centre de tout, c'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ doit être roi des cœurs, roi des intelligences, roi des volontés. Alors qu'au contraire, pour le monde moderne, eh bien, c'est tout l'inverse, c'est le rejet catégorique du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, donc de cette béatitude. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. On peut expliquer d'une autre façon en disant que cette béatitude travaille parfaitement bien avec l'Église catholique, alors que le refus, je veux dire, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ travaille parfaitement avec l'Église catholique, parce que l'Église catholique a un système politique qui est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul dont elle dispose, c'est à celui-là, donc c'est vers celui-là qu'il faut tendre. Mais évidemment, ceux qui refusent toutes ces choses-là, et qui veulent garder que des biens temporels, ici-bas, eh bien, ils vont tout perdre. Absolument tout perdre. Alors, il faut donc ne savoir accepter de ne pas nous laisser, encore une fois, contaminer par l'esprit moderne. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la civilisation catholique. Le refus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la République laïque française. Le laïcisme français, c'est quoi? Ce laïcisme français, c'est la volonté délibérée de mettre notre Seigneur Jésus-Christ en dehors du système politique. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a plus rien à dire dans la société. C'est pour cela, je vous l'ai déjà dit, je me choque un petit peu en disant ces choses-là, c'est pour ça que je suis catégoriquement opposé, j'étais catégoriquement opposé à participer aux élections, dernières élections, qu'elles soient législatives ou présidentielles, parce que tous les candidats de droite comme de gauche, d'extrême droite comme d'extrême gauche, à l'extrême gauche, dans tous les candidats sans aucune exception, ont tous un point commun, le rejet du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils haïssent Dieu. Ils vont le dire de façon plus ou moins directe, mais c'est ce qui les unit tous, le rejet du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils proposent à la place de ce règne social de notre Seigneur Jésus-Christ? Bien, à la place de ce règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, ils proposent la seule chose qu'ils peuvent donner, à savoir le laïcisme. La République française n'est pas une république quelconque, c'est une république laïque, une république anti-Dieu, une république centrée sur l'homme qui prend la place de Dieu. Donc c'est une république humaniste, mais pas simplement humaniste qui laisse une certaine place à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est humaniste en refusant catégoriquement toute influence de notre Seigneur Jésus-Christ. Les catholiques veulent l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ dans tout ce qui touche. Donc nous voulons l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos écoles, dans nos familles, dans nos hôpitaux, dans nos cours de justice, partout, dans nos armées, partout. Au contraire, le laïciste, et tous les ceux qui ont postulé pour qui ont demandé à être élus, qui cherchaient à être élus aux législatives ou aux présidentielles, avaient tous ce point commun, tous, il n'y a pas une seule exception. Ils étaient tous fortement laïcs et voulaient une république laïque. Qu'est-ce que ça veut dire laïque? Laïque, en fait, ça veut dire anti-Dieu. Et vous direz, ah, mais on n'est pas anti-Dieu, vous pouvez prier Dieu en privé. Non, mais attendez, si Dieu n'est à prier qu'en primé, en privé, ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'a plus rien à faire dans le monde moderne. Alors, ils veulent bien notre Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur quand on prie pendant la prière du matin, la prière du soir. Ils ne veulent surtout pas de l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde moderne. D'où la béatitude, donc la quatrième, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Cinquième béatitude, donc toujours page 48, bienheureux les miséricordieux. Bienheureux les miséricordieux. Alors, là, on parle de la vertu de libéralité, ce qui concerne les dons spontanés. Donc, les dons faits par charité, non plus par justice, mais par charité. La vertu parfaite nous fait donner à ceux à qui la raison nous prescrit de donner, les amis, par exemple, et les autres personnes qui nous sont unies, ce qui ressort à la vertu de libéralité. Alors, le don du Saint-Esprit, à cause de la révérence qu'il nous inspire envers Dieu, ne regarde que la nécessité chez ceux à qui il procure des bienfaits tout gratuits. La libéralité, c'est quoi? C'est l'exercice de la charité. De la phrase de Saint-Luc, quand tu offres à dîner ou à souper, n'invite pas tes frères et tes amis, mais invite les pauvres et les estropiés. Ce qui est le propre de la miséricorde. Donc, bienheureux les miséricordieux, c'est tout simplement bienheureux ceux qui acceptent de comprendre que les choses qu'ils ont ne sont pas pour elles. On dit qu'il y a deux genres de personnes dans la société, les riches et les pauvres. Quel est le rôle du devoir d'État des riches? Les riches sont riches pour aider les pauvres. Et les pauvres sont pauvres pour faciliter la vertu de charité, la vertu de charité à l'égard des pauvres de la part des riches. Vous voyez? Mais dans l'esprit des anciens, au début de l'histoire de l'Église, c'était très clair que les gens riches n'ont pas le droit de considérer que ces richesses leur appartiennent à eux seuls. Ils sont riches, très bien, mais ils sont riches pour pouvoir aider les pauvres, pour pouvoir aider l'Église. Donc, je continue d'avancer. La sixième béatitude. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand à ce qui se rapporte à la vie contemplative, donc là on monte au degré supérieur, au-dessus de la vie active, ou bien c'est la béatitude finale elle-même, c'est-à-dire le ciel, ou bien c'en est le commencement ici-bas. N'oubliez pas qu'une âme en état de grâce, c'est un bout de ciel ici-bas. C'est pourquoi on ne le met dans les béatitudes à titre de mérite, mais non pas à titre de mérite, mais à titre de récompense. Ils verront Dieu. On propose comme des mérites les effets de la vie active par lesquels on se dispose à la vie contemplative. C'est-à-dire qu'on a le droit, on doit utiliser la vie active comme un tremplin, des marches pour obtenir les bienfaits de la vie contemplative. Pourquoi? Parce que l'effet de la vie active, quant aux vertus et aux dons par lesquels l'homme est perfectionné en lui-même, c'est la pureté du cœur. qui fait que l'âme en nous n'est plus souillée par les passions. C'est pour cela que la béatitude dit « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Et on voit très bien comment toutes ces béatitudes se regroupent. Et notre Seigneur Jésus-Christ explique selon les... parle en fonction des gens à qui il s'adresse. C'est très important. Ça m'a beaucoup frappé, par exemple, dans l'étude, dans la vie des rédemptoristes, surtout Saint Alphonse de Ligorie, qui était évêque, avait fondé fondateur des rédemptoristes, et il avait interdit à ses prêtres d'utiliser le style de fleuri, si vous voulez, qui était utilisé dans les prêches de l'époque. 17e, 18e siècle, c'était le grand français, etc. Très bien, mais il voulait absolument que les prêtres gardent une façon de parler très simple, très humaine, pour que tout le monde puisse le comprendre. Je cherche un texte là, que je ne trouve pas. Je cherche ce texte. Non, je ne trouve pas, c'est pas grave. Je chercherai après. Alors, on continue. J'ai perdu ma ligne là. Alors. Donc, au niveau de la vie contemplative, donc on a dit, on a expliqué que la pureté du cœur, bienheureux ceux qui ont un cœur pur, ne peut exister que dans une âme qui est libérée des passions. Il est évident que si une âme est encore encombrée par les passions d'ici-bas, soit dans la concupiscible, soit dans l'irascible, eh bien, il pourra pas faire grand-chose. Parce que les passions, si vous voulez, les passions dans l'irascible, dans le concupiscible, vont empêcher l'arrivée du Saint-Esprit, donc de la grâce sanctifiante, donc des béatitudes. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, et remarquez la conséquence de cette pureté de cœur, c'est-à-dire l'état de grâce, c'est ça que ça veut dire, le cœur pur, c'est l'état de grâce, c'est la charité, ils verront Dieu. Et puis les choses matérielles, comme la béatitude qu'on a déjà vue, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice parce qu'ils seront rassasiés. Non, pas du tout. Ce n'est pas une béatitude qui dit bienheureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Non, c'est bien plus beau que ça, bien plus haut que ça. Bienheureux ceux qui sont purs, qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Quant aux vertus et aux dons par lesquels on est rendu parfait à l'égard du prochain, l'effet de la vie active, c'est la paix. L'œuvre de la justice, c'est la paix. On verra ça après parce que c'est un des fruits du Saint-Esprit. La charité d'abord, puis la paix et la joie. C'est pourquoi on donne comme 7e béatitude, bienheureux les pacifiques. Justement, à cause de cela. Pacifique, c'est quoi? C'est la paix. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le chrétien, le catholique, doit être un homme de paix. Ne pas dire qu'il ne va pas devoir se battre dans certains cas, et il y a bien des cas où il va falloir se mettre en guerre pour protéger par exemple les croisés pendant, ou les pèlerins qui allaient en Palestine pour vénérer les restes de notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas sur la terre. Alors les endroits qui avaient été marqués, foulés par les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc c'est des grands saints comme Saint-Bernard, comme Saint-Louis qui ont fait les croisades, qui ont préparé les croisades justement, parce que ces croisades étaient nécessaires, sinon on n'arrivait à plus rien obtenir. Mais ordinairement, il faut quand même essayer de se maintenir en paix autant que c'est possible. Donc, bienheureux les pacifiques. Alors, Saint Thomas continue d'expliquer un peu plus ces choses. C'est en bas de la page 48 là. Ce qui meut surtout la mansuétude, c'est la révérence envers Dieu, qui se rattache au don de piété. Ce qui porte aux larmes, c'est principalement la science par laquelle l'homme connaît ses propres défauts et ceux des choses de ce monde. Donc, faut faire très attention. Donc, la vertu de charité qui correspond à ces béatitudes, la vertu de charité, c'est donc, attention, c'est la vertu de charité surnaturelle. Ce n'est pas du tout la vertu de charité matérielle d'ici-bas. Hein. J'ai déjà expliqué, mais il faut toujours insister là-dessus. Donc, les béatitudes travaillent avec la vertu de charité comme vertu théologale de charité, qui n'a rien à voir avec les vertus de charité naturelle. Donc faites attention, parce que quand les hommes politiques, ou les hommes d'aujourd'hui tout simplement, en général, parlent de la vertu de la charité, ils parlent de charité naturelle. C'est d'aider les pauvres pour un plan purement naturel. Au contraire, dans les béatitudes, notre Seigneur Jésus-Christ parle de la charité de façon tout à fait surnaturelle. C'est pour les monter vers le bon Dieu. On trouve ce texte, pour ceux qui veulent retrouver le texte, je cherchais tout à l'heure, je l'ai trouvé. On trouve ce texte dans c'est l'évangile de la fête de la Toussaint. Au 1er novembre, vous avez les béatitudes de Saint Matthieu, pour bien montrer justement le lien qui existe entre ces béatitudes, donc c'est le texte de Saint Matthieu, chapitre 5, entre ces béatitudes d'une part et le ciel. La fête de tous les saints, c'est quoi? C'est la fête de l'Église triomphante, l'Église du ciel. Donc comment ces gens sont-ils montés au ciel? Par la pratique des béatitudes, c'est pour ça qu'il y a cet évangile. En ce temps-là, Jésus, voyant les foules, gravit la pente de la montagne, et quand il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Ouvrant alors la bouche, il les enseignait en disant, hein, Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est pour eux qu'est le royaume des cieux. Bienheureux les doux, car ce sont eux qui posséderont la terre. Bienheureux ceux qui pleurent, car ce sont eux qui seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ce sont eux qui seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ce sont eux qui obtiendront miséricorde. Bienheureux ceux dont le cœur est pur, car ce sont eux qui verront Dieu. Bienheureux les pacifiques, car ce sont eux qui seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car c'est pour eux qu'est le royaume des cieux. Oui, vous serez bienheureux quand on vous maudira, quand on vous persécutera, et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous alors et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Ça veut dire quoi? Il y a bienheureux tous ceux qui ont supporté la persécution, bienheureux tous ceux qui ont porté la croix. C'est ça le résumé de toutes les béatitudes. Portons la croix, les croix que le bon Dieu nous envoie, et de ceux qui nous en envoient, et surtout à ceux qui l'aiment bien, sont parfois méritées, elles sont parfois non méritées humainement parlant, mais bon Dieu sait ce qu'il fait. Donc il nous donne toutes les grâces dont nous avons besoin pour arriver à tenir le coup. Et donc, encore une fois, le degré de charité que nous avons, même ici-bas au ciel, souvent, ici-bas sur la terre, pardon, est souvent déjà directement proportionnel au nombre de croix qu'on a. C'est terrible de voir, par exemple, des gens qui ont parfois des grosses, grosses croix, hein, des croix qui peuvent être très, très pénibles à porter, des croix de santé, des croix de mort, mort dans la famille, dans des conditions bien tristes, etc. Mais, encore une fois, c'est des gens qui souffrent beaucoup. Je vous l'ai déjà souvent dit, mais je réinsiste parce que c'est très important à comprendre. Il y a deux façons de souffrir. Ou on souffre comme un damné, ou on souffre comme un futur élu. Non, je dis toujours ça, je m'excuse de me répéter, mais c'est important de comprendre ça. Quand je vois un malade à l'hôpital qui est sur un grabat d'hôpital et qui vraiment n'a aucune chance de s'en sortir, qui souffre martyr malgré les médicaments qu'on lui donne, il est sous perfusion, il a tout qui s'écroule dans son organisme physique. Je leur dis toujours la même chose, surtout si ce catholique est capable de comprendre ces choses, mais je dis ne gaspillez pas ces souffrances, offrez-les. Offrez vos souffrances pour les pécheurs, offrez ces souffrances en réparation pour vos propres péchés passés, offrez ces souffrances pour les péchés des membres de votre famille, offrez ces souffrances pour tous les pécheurs en général. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser ces terribles souffrances qui sont les vôtres actuellement comme un moyen de vous rapprocher du ciel. Et comme toutes ces choses sont très importantes, au contraire, celui qui refuse, qui se révolte contre la souffrance, se révolter contre la souffrance, ça ne sert absolument à rien, parce que vous pouvez vous révolter contre la souffrance, c'est pas ça qui va faire disparaître la souffrance. Et donc la révolte contre la souffrance, elle ne supprime rien du tout. La révolte contre la souffrance, elle va entraîner le découragement. L'acceptation des souffrances par amour de Dieu entraîne l'espérance. On lève la tête vers le ciel, le bon Dieu nous attend là-haut avec sa croix. Et comme il a voulu souffrir sur la croix, lui qui est innocent, moi qui ne suis pas innocent à cause de mes péchés passés, c'est normal que je souffre moi aussi. Parce qu'il faut achever ce qui manque à la passion du Christ. Et au contraire, si je me révolte contre la croix, je ne supprime pas les souffrances pour autant, mais je perds mon temps. Et au lieu d'utiliser ces souffrances qui peuvent être très fortes dans ma vie comme un moyen de purification et de me rapprocher du ciel, parce que quelqu'un qui souffre beaucoup ici-bas sur la terre, qui offre tout ça au bon Dieu, va aller au ciel avec une vitesse bien plus grande que celui qui veut aller au ciel sans croix. Vous voyez? On ne peut pas aller au ciel sans croix, c'est absolument impossible. Les croix sont les marches de l'escalier qui nous montent vers le ciel. Donc Saint Thomas d'Aquin a d'autres petites notes ici qu'on trouve en bas de la page 48. Je vais essayer de terminer cette page 48. Ensuite, il y aura encore, je pense, deux cours pour terminer cette partie du cours concernant les vertus. Après, on attaquera le grand traité de saint Thomas, question 71 et 89 de la prima secondae, le péché. Ce qui meut d'abord, dit saint Thomas, surtout la meilleure attitude, c'est la révérence envers Dieu, qui se rattache au don de piété. Le don de piété qui doit nous faire comprendre qui est dans le tabernacle. Et en fonction du fait qu'on ait compris qui est dans le tabernacle, le Seigneur Jésus-Christ est vraiment là avec son corps, son sang, son âme et cette divinité. Alors on fait attention à la génuflexion, à la façon de faire son signe de croix. Quand on rentre dans une église, quand on voit des gens ou des enfants qui ont mal été préparés par leurs parents, qui font leur signe de croix comme un chasse-mouche, sans penser à ce qu'ils vont faire. Ou des adultes même qui rentrent, qui font des demi-génuflexions, qui pourraient être parfaitement, physiquement parlant, faire une génuflexion complète, qui font même pas de signe de croix à l'entrée, eh bien, on sent qu'il n'y a pas cette révérence. Cette révérence dépend directement du don de piété. Le don de piété qui est aussi seulement un don du Saint-Esprit, mais c'est aussi l'élément clé de la vertu de religion. Parce qu'il y a la vertu de religion, la première conséquence de la vertu de religion, c'est la vertu de piété. Pas simplement attention à l'égard de Dieu, c'est aussi la piété à l'égard de tous ceux qui sont en charge. Il y aura une piété, par exemple, d'un enfant à l'égard de ses parents. Donc la révérence se rattache au don de piété. Donc le don de piété nous aide à considérer Dieu tel qu'il doit être considéré, c'est-à-dire à savoir nous agenouiller devant le bon Dieu en adoration. Ce qui porte aux larmes, c'est principalement la science, par laquelle l'homme connaît ses propres défauts et ceux des choses de ce monde. Et on voit très bien là le lien entre les béatitudes et les dons du Saint-Esprit. D'accord? Donc le don de piété va se rattacher, si vous voulez, à tous ceux qui ont cette révérence envers Dieu. Ce qui porte aux larmes, c'est la science, par laquelle l'homme connaît ses propres défauts et ceux des choses de ce monde. La science, c'est quoi? C'est connaître les limites, justement, des choses d'ici-bas. Quand on vit dans un monde qui est complètement artificiel, on finit par mettre ses joies et ses besoins dans le monde d'ici-bas. Alors qu'il faut, au contraire, remonter tout vers le bon Dieu pour nous faire comprendre où sont les choses de Dieu. Quand un homme est confirmé dans la pauvreté d'esprit, bienheureux les pauvres en esprit, dans la douceur, bienheureux les doux, et dans toute la suite des béatitudes, il n'en résulte qu'aucune persécution ne s'éloigne de ses biens. On voyait très bien les martyrs. Plus on tapait dessus, plus on les brûlait, plus on les coupait en rondelles, dans le sens de la longueur, dans le sens de la largeur, plus ils augmentaient l'amour du bon Dieu en eux. Puis au contraire, ils étaient heureux de souffrir pour notre Seigneur. Bon, certainement, ça correspond, c'est évident, ça correspondait à des grâces tout à fait spéciales que le bon Dieu ne donne pas à chacun d'entre nous, rassurez-vous. Le bon Dieu ne va pas vous demander d'être mangé par un lion demain matin. Mais il faut comprendre ces choses-là. Il faut que nous ayons notre cœur tellement attaché à notre Seigneur Jésus-Christ qu'aucune persécution ne nous éloigne de ses biens. Ses biens sont naturels. Donc, saint Thomas a fait bien remarquer, je vous l'ai déjà dit, que d'après le récit de saint Luc, donc quatre béatitudes seulement, le sermon du Seigneur a été adressé aux foules. C'est pourquoi les béatitudes y sont énumérées selon la capacité des foules qui ne connaissent que la béatitude voluptueuse, temporelle et terrestre. Aussi, le Seigneur se borne à exclure par quatre béatitudes les quatre choses qui semblent appartenir à cette béatitude-là. Donc, c'est les béatitudes de Saint-Luc. Je passe rapidement parce qu'on a déjà expliqué ça. Bienheureux les pauvres, pour les biens extérieurs, ne pas s'y attacher. Bienheureux vous qui avez faim, par rapport au bien de la nourriture, de la boisson, pour encore une fois contrôler ces choses-là, ne pas y mettre son cœur. Bienheureux vous qui pleurez maintenant, pour expliquer que même si le monde est joyeux, nous on pleurera parce que justement on ne veut pas ce que le monde cherche. Au contraire, lorsque les catholiques sont heureux, le monde n'est pas content. C'est l'inverse. Donc, la quatrième béatitude de Saint-Luc, c'est la faveur publique. Elle est exclue par les mots « Bienheureux serez-vous quand les hommes vous haïront hein? ». Donc la pauvreté se rattache donc à la tempérance, qui ne cherche pas les biens trompeurs. La faim se rattache à la justice, parce que celui qui a faim est compatissant, et compatissant se montre généreux. Les larmes, au contraire, se rapportent à la prudence, à qui il appartient de pleurer ce qui est périssable. Donc souffrir la haine des hommes appartient ainsi à la force. Mais on voit très bien là le lien. Il y a des tas de conférences spirituelles à faire sur ce sujet très important, qui est repris beaucoup par les grands mystiques. Donc le lien entre les dons du Saint-Esprit, les béatitudes et les fruits du Saint-Esprit, et encore le lien avec c'est ça, surtout les dons du Saint-Esprit et les conseils et les, pardon, les dons du Saint-Esprit, oui. Il y a donc un lien très net entre les différentes béatitudes et les dons du Saint-Esprit. Ici, donc, Saint Thomas d'Aquin parle des béatitudes de Saint-Luc. Donc, il y en a quatre, la prudence, la force, la justice et la tempérance vont se rapporter à ces quatre béatitudes. Encore une fois, le don de prudence va se rapporter aux larmes, bienheureux ceux qui pleurent, le don de force, bienheureux ceux qui souffrent la haine des hommes, bienheureux. C'est la dernière béatitude de Saint Matthieu. Bienheureux quand on vous maudira, quand on vous persécutera, quand on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous alors et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Le don de justice va se rapporter à ceux qui ont faim et soif de justice. Et don de tempérance, bienheureux les pauvres, et bienheureux ceux qui se coupent un peu de toutes les choses d'ici-bas. Voilà, donc nous avons terminé cette question, cet article, plutôt, Prima Secondé, question 69, article 3. Donc la prochaine fois, donc cette semaine prochaine, si je veux, je mettrai sur le site internet donc l'explication de la page 49, donc la question 69, Prima Secondé, article 4, que nous couvrirons la prochaine fois. Donc, si Dieu veut, à la page 49. Voilà, le 1er juillet que je note ça, 2017. Donc il nous reste cette question, cet article 4 de la question 69, page 49, toute la page 50, la question 70 en partie. Et en haut, la page 51. Donc, je pense que la prochaine fois, peut-être encore deux cours, un ou deux cours, au moins un cours, peut-être même deux, pour terminer le traité sur les vertus, avant d'attaquer, comme je vous l'ai expliqué, le traité concernant le péché. Voilà, on dit une petite prière pour terminer. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et priez pour moi.